France Culture, nuit spéciale, nuit de la mode. C'est en compagnie de Pamela Golbin, conservatrice générale mode et textile 1940 à nos jours, au musée de la mode du musée des arts décoratifs et commissaire générale de l'exposition au musée des arts décoratifs à Paris. Encore une fois, Fashion Forwards, trois siècles de mode, 1715-2015. C'est en compagnie donc de Pamela Golbin que nous avons commencé cette nuit spéciale. Une tribune de Paris datée de 1949 a suivi avec pour thème « Comment se crée, comment s'établit la mode ?». Puis nous avons pu entendre une émission consacrée à Paul Poiret, puis « La mémoire du siècle » de Bettina Graziani, ancien mannequin vedette. Nous a rejoint ensuite dans ce studio le couturier Franck Sorbier. Une archive a suivi, les lundis de l'histoire, que Jacques Le Goff avait consacré en 1997 aux parades et parures, à l'invention de la mode à la fin du Moyen-Âge. Ensuite, nous nous sommes promenés dans les coulisses d'une grande maison de couture, et donc dans le passé, puisque l'émission datait de 1951. Et enfin, à l'instant, nous avons pu suivre la conférence que Pierre Balmain donnait « Comment j'habille mes rêves ». Bonsoir Gérard de Cortance.
Bonsoir.
Alors, il est une mode vestimentaire que l'exposition présentée par Pamela Golbin n'a pas proposée au public, c'est bien celle des Zazou. Mais grâce au roman que vous avez publié ce printemps chez Albin Michel, intitulé tout simplement Zazou, au pluriel, nous n'ignorons rien de ce qui habillait le corps des jeunes filles et des jeunes garçons qui se revendiquaient Zazou un petit peu avant la guerre, en tout cas durant les années de guerre. Alors, au début de la guerre, les grands couturiers qui n'étaient pas Zazou, eux, avaient créé une mode de l'ère du temps, dénominations. En tout cas, ça s'appelait par exemple service secret. C'était chez Robert Piguet, c'est ça. Et puis, il y avait aussi un manteau camouflage. J'ai appris ça dans votre roman, Gérard de Cortance.
Oui, c'est ça. Alors, c'était une mode...
Opportuniste.
Oui. Enfin, il y avait beaucoup de restrictions. De circonstances, il y avait beaucoup de restrictions. C'était une mode triste. Et les Zazou, qui, tout petit peu d'histoire, ont 15 ans quand la guerre commence et en ont 21 lorsqu'elle se termine, c'est-à-dire ils sont devenus adultes et...
Les vôtres, vos majeurs, personnages.
Mes personnages, voilà, mais les vrais Zazou aussi.
Oui.
Hein, en fait, c'est vraiment une classe d'âge. On les appelle pas encore comme ça, mais en fait, en réalité, ce sont des adolescents. Donc évidemment, cette mode-là ne va pas les intéresser.
Non.
Ce sont des pré-yéyés, en quelque sorte, avec les nazis en plus et la consommation en moins. Alors, ils ont un regard très particulier sur cette époque, et ce sont des excentriques. Et l'excentricité, ça va commencer par une différenciation liée aux vêtements. Et alors, c'est très intéressant, parce que c'est une mode qui est contre. Ils sont contre. Alors, l'époque est au tissu triste. Donc là, ils vont utiliser des tissus colorés. Les vestes pour les garçons sont des vestes à carreaux. Rouge, verte, jaune. La mode est plutôt aux vestes courtes pour les hommes. Eh bien, les Zazou vont allonger la veste. Ça sera une veste longue. Les vêtements pour les jeunes filles, c'est plutôt des vêtements relativement amples. Donc, que vont faire les Zazou ? Aussi par provocation, eh bien, ils vont habiller les jeunes filles avec des corsages ou des pulls bien moulants, bien serrés, avec des jupes assez courtes, qui ne sont pas encore des mini-jupes, mais enfin qui, pour l'époque, sont totalement extravagantes. Vous savez bien qu'il n'y a plus de cuir. Donc, c'est des chaussures et des triples semelles en bois, en carton, en matériaux divers. Eh bien, eux... s'arrange pour récupérer du cuir, pour que leurs chaussures soient en cuir. Il y a toute une série comme ça de d'accessoires. Alors, les deux accessoires fondamentaux pour les Zazou.
Le parapluie,
mais c'est pas n'importe quel parapluie. C'est le parapluie Chamberlain. Parce que Chamberlain, comme vous le savez, ce sont les accords de Munich. Donc, on en reparlera peut-être après, mais il y a une forme de politisation dans tout ça. Donc, ce parapluie, bien entendu, il est de bon ton de ne pas le porter ouvert, de ne pas l'ouvrir lorsqu'il pleut. Les lunettes de soleil, évidemment, on les porte lorsqu'il fait nuit ou lorsqu'il n'y a pas de soleil. Donc, il y a vraiment une mode vestimentaire qui va réunir cette classe d'âge. Mais la mode vestimentaire va s'étendre à d'autres choses, hein.
Oui, parce que c'est pas eux, par exemple, c'est Zazou qui vont porter la combinaison tous aux abris, le pyjama alerte. Vous ne les avez pas inventés, ces noms-là, ces dénominations,
Gérard de Cortance. Absolument pas. Non, vous savez, il y a un vrai travail d'archives et de recherche.
De documentation.
De documentation. Au départ de tous mes livres, en général, et celui-ci en particulier. Donc, tout est extrêmement précis. Lorsque je dis, par exemple, que le plat préféré des Zazou, ce sont les carottes râpées à Valorant Fabius. Eh bien, c'est exact. Lorsque je dis que les Zazou, lorsque vous êtes Zazou, vous devez boire une bière grenadine, qui est un breuvage infâme, c'est exact. Le succès, je vais vous donner deux livres. Le succès de deux livres interdits, qui étaient Rebecca, Daphné du Maurier, Autant n'emporte le vent, Marguerite Mitchell. Ce sont les Zazou qui ont fabriqué le succès parce qu'il était de bon ton à l'époque d'entrer dans les cafés Zazou avec sous le bras ou à la main un de ces deux livres.
Alors on va en parler, Gérard de Cortance, parce que c'est évident que ces Zazou, c'est pas simplement une décennie d'excentriques. Ça pourrait pas se passer dans les années 30, dans les années 50 non plus. On est vraiment en pleine guerre et ils sont là pour résister, alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de guillemets, mais il y aura des choses à dire aussi, oui. à leur manière. Et on pourrait s'amuser donc à lire ce roman, Zazou, en fonction de la mode vestimentaire, on a un peu commencé comme ça, mais ça paraissait aussi important que la musique, c'est-à-dire l'apparence, et puis la musique. Alors la musique, ça a commencé un petit peu avant, ils n'ont pas inventé la musique Zazou.
Alors, avant de parler de la musique, juste un tout petit mot pour prolonger sur la mode, la couverture du livre, qui semble être une couverture tout à fait innocente. On voit une jeune fille sur une bicyclette avec des soldats allemands
à l'arrière.
Eh bien, cette jeune fille fait de la résistance. Pourquoi fait-elle de la résistance ? Parce qu'il y a une loi, à l'époque, qui interdit aux jeunes filles, ce qui ravit, entre parenthèses, les hommes et les garçons, qui interdit aux jeunes filles de faire du vélo en pantalon. Lorsque vous faites du vélo, dans les années de guerre, vous devez porter une jupe. Donc, elle porte un pantalon, c'est une forme de résistance à l'occupant et aux lois de Vichy. Mais pour revenir à la musique, c'est vrai que le mouvement Zazou, c'est tout à fait lié au développement d'un certain type de musique qu'on appelle le swing. Et le swing, alors, c'est une musique américaine qui va disparaître d'ailleurs après la guerre. Et c'est essentiellement du jazz joué par des orchestres blancs. Le promoteur du swing, c'est Benny Goodman. Il n'y a pas de noir dans les orchestres de Benny Goodman. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais donc, le swing est très lié à ce type d'orchestre. Deux grands orchestres, ils sont 30 ou 40. Il y a aussi des petites formations, on en parlera. Mais l'essentiel, c'est le swing qui peut être considéré un peu comme l'ancêtre du bebop, mais certainement pas du rock'n'roll. Ça n'a absolument rien à voir.
Alors il y a un double CD qui accompagne le livre. Il accompagne. On le trouve en librairie, on le trouve chez les disquaires. Comment ça se passe ?
Alors on le trouve en librairie si les libraires le souhaitent, puisqu'il n'est pas vendu avec le livre.
Hein, c'est pas un bonus.
Non, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vraiment la bande son du livre. C'est-à-dire que le livre. L'idée, c'était de raconter la guerre 39-45 vue par des adolescents et de la raconter, comment dire, de façon un peu légère. Ce qui n'a pas été si facile, vous en doutez bien, mais c'était l'élément moteur. Je voulais raconter cette guerre par la musique, par la danse, par le chant. Par la mode.
Et géographiquement, c'est vraiment parisien. Et
c'est totalement parisien.
Alors on pourrait parler, donc, les garçons ont des pantalons courts et étroits, une longue canadienne, les cheveux longs dans le cou, c'est ce qu'on apprend ou qu'on réapprend dans votre livre, Gérard de Cortance. Mais finalement, en écoutant Johnny S., qui, en 1941, lui, il avait déjà parlé des Zazou, je suis swing, ça c'est ça.
38,
alors c'est très connu. Mais en 41, il revient, parce que c'est une espèce de mine en musique, c'est il y a des tas de gens qui chantent les Zazou.
Oui, écoutez, j'ai la compilation que j'ai faite, en fait, à l'origine, j'avais repéré 170 morceaux, jazz ou variété, dans lesquels le mot swing ou Zazou était incorporé à la musique.
Tout le monde est Zazou, même la poule chez Trenet. Mais on va plutôt écouter Johnny S. En 1941, ils sont Zazou.
les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah, ils sont zen. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne, traîne par terre. Ah, ils sont zen. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout. Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités. Oh, ils sont zazous. Un jour, un brave notaire de son pays débarquant venait pour de grosses affaires de l'aigle de testament. Il avait l'allure très digne, mais comme les modes de maintenant ont à peu près la même ligne que celle de 1900. De jeunes azous s'écrièrent en apercevant ce qu'il fait distinguer son col haut de 18 pieds. Oh, puisqu'il est azous. Il a ce brave notaire, le veston qui traîne, traîne par terre. Oh, ce qu'il est azous.
Alors Johnny S, en 1941, ils sont zazou. Il y a une quarantaine de titres, Gérard de Cortan, sur ce double CD qui accompagne le roman, donc Zazou, publié chez Albin Michel. Alors il faut dire qu'on a commencé, parce que c'est une nuit de la mode, on a commencé par les vêtements, par les attitudes, par la musique. Mais il faut dire que ça évolue quand même en fonction des années, parce qu'en 40, en juin, juillet, ils se réunissent, ces personnages, ils existent vraiment, hein, c'est pas un documentaire, c'est vraiment un roman, on les suit, on les aime, on les critique, parfois. Mais par exemple, le 11 novembre 40, il va y avoir aussi quelque chose, vous les inscrivez dans l'histoire nationale, parisienne à ce moment-là, et les vêtements changent aussi, enfin, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que comment dire, l'idée, donc, de raconter cette guerre vue par des adolescents, c'était de les voir grandir avec cette guerre, de les voir changer avec cette guerre. C'est-à-dire que leur but n'était pas de changer le monde, pas du tout, du tout. Ils voulaient continuer à vivre leur existence d'adolescent. Ils ne voulaient pas que leur enfance leur soit confisquée, mais ils ne voulaient pas changer le monde. Or, de fait, évidemment, avec ce qui se passe, jour après jour, parce que c'est un livre qui raconte la guerre à Paris, au quotidien, jour après jour, eh bien, cette guerre va les changer. Et notamment dans leur attitude, politique. Et on voit bien qu'au début, c'est quelque chose qui est totalement apolitique. Ils vont participer, ils ne sont pas à l'origine, mais ils vont participer à cette première manifestation, qui est le fait de lycéens, de collégiens, le 11 novembre 40, qu'on a assez oublié en réalité. On commence à en reparler un petit peu maintenant, mais pendant des années, on ne parlait pas de cette première manifestation. Pourquoi, me semble-t-il ? Parce que cette manifestation n'avait pas été organisée par des partis politiques, par la résistance qui n'existait pas, par le Parti communiste qui avait d'autres choses à fouetter, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique. Eh bien, ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui font cette première manifestation anti-nazie. Et le livre, d'une certaine façon, rend hommage aux Azous, mais aussi à toute cette jeunesse française et parisienne qui a lutté avec les moyens du bord, qui étaient les siens, ceux de son âge. C'est-à-dire, on dessine des croix de Lorraine sur les vitres recouvertes de poussière de l'armée allemande. Il y a de la neige, et bien on dessine des V de la victoire. On décide d'une journée muette. Ou d'une journée, au contraire, où on ne sort pas dans la rue, ou au contraire, on défile, vous voyez. Et petit à petit, les choses vont changer. Par exemple, la 8e ordonnance allemande, 42, le port de l'étoile jaune. Et là, c'est prouvé, et là encore, on en parle. Je ne vois pas pourquoi on n'en parle pas plus que cela. Il y a 500 à 600 jeunes qui entraînent une partie de la population de Paris. Ce sont les Azous, qui ont sur la poitrine une dessinée des étoiles de toutes les couleurs, avec écrit « swing », « bouddhiste », « juif ». C'est à la fois, comment dire, une manifestation qui est un signe amical adressé aux juifs, et en même temps, évidemment, c'est une vraie provocation par rapport à l'occupant qui est là. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a quand même 450 Zazou qui vont se retrouver à Drancy, certains n'en reviendront jamais, et ceux qui en sont revenus racontent qu'ils ont porté sur la poitrine une pancarte sur laquelle était écrite « Amis des Juifs ». Donc on voit bien qu'au fur et à mesure où la guerre avance, ils prennent des positions politiques, certains font une forme de résistance plus active, et surtout, on voit bien que le régime qui est en place va vraiment commencer par les prendre en grippe et va très bien comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose de très important là, c'est-à-dire que cette jeunesse fait partie de la résistance.
Ça pourrait être l'inverse, finalement, Gérard de Cortance, parce que, c'est des loufoques, c'est des excentriques, mais pendant ce temps-là, ils font pas de politique, quoi. En somme, habillez-vous comme vous voulez, faites un peu les oies, ayez des cheveux longs, des cheveux courts, oui. Ce que vous voulez. On a l'impression, comme ça Vichy et l'occupant pourraient dire, voyez, la jeunesse s'amuse, rien n'a changé vraiment, enfin bon...
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est si on... Comment dire, si on adopte ce discours-là, on se dit, tiens, mais alors comment se fait-il qu'on repère plus de 70 articles féroces contre les Azous, dont certains sont de véritables appels, peut-être pas au meurtre.
Oui, mais dans Je suis partout. Dans
Je suis partout, dans 7 jours. Donc, que disent ces articles? Ces articles disent scalper les Azous. Alors, scalper les Azous, qu'est-ce que c'est? C'est leur couper les cheveux, mais aussi les tabasser. Et jusqu'à la fin de la guerre, vraiment, le dernier article que j'ai trouvé, c'est quelques mois avant l'arrivée des Américains en Normandie, eh bien, les Azous continuent d'être pris en grippe par le régime. Il y a un célèbre discours de Doriot, qu'on peut d'ailleurs tout à fait écouter sur Google, c'est assez saisissant. On le voit, qui parle de cette jeunesse française qui part sur le front russe, tandis que d'autres font le zazou moralement et physiquement. Donc on voit bien que les zazous, c'est quelque chose qui gêne le régime en place. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique.
Mais alors comment cette musique peut être écoutée? Parce que, bon, elle n'est pas sur Radio Paris, elle est un peu récupérée parce qu'on se dit finalement cette jeunesse française, autant lui faire entendre un swing bien français, bien arien, enfin voilà, qui est sans danger aucun, et blanc, tout ce qu'on veut. Mais tout le monde n'est pas d'accord dans justement les Je suis partout, les miliciens. Les miliciens, c'est plus tardif.
Mais... Oui, c'est une époque qui est très, que vous savez, qui est très très étrange, qui est bourrée de contradictions. Alors, par exemple, le jazz. On a dit à tort que le jazz était interdit. Il n'y a jamais eu autant de concerts de jazz à Paris qu'à cette époque. Le Hot Club de France, le développement du Hot Club de France pendant la guerre est quelque chose d'absolument incroyable. Les salles de concert sont pleines. Mais alors, pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui jouent du jazz, qui défendent le jazz et la musique swing et zazou ont trouvé en fait des biais, des trous dans le filet. Et vous savez, plus c'est gros et plus ça passe. Donc, toute cette musique qui vient des États-Unis, eh bien, on va changer les titres. Exemple, c'est tellement gros.
Johnny B. Good,
Lady B. Good, ça devient Lady Goody. Et on vous dit, c'est de la musique française. Eh bien, ça passe. On explique que la musique swing, la musique jazz, ça vient pas du tout des États-Unis et des Noirs américains. Pas du tout, non. C'est le folklore français. C'est la bourrée auvergnate. C'est la musique antillaise. Il y a des orchestres antillais qui sillonnent la France à l'époque. Parce que pourquoi? Mais parce que c'est le folklore français, mon cher monsieur.
Pas blanc.
Comment?
Mais pas blanc.
Oui, mais français quand même.
Oui.
Donc il y a des choses aberrantes qui arrivent à fonctionner comme ça. Et effectivement, Radio Paris est allemand. Eh bien, finit par avoir des quelques heures de jazz chaque jour parce que on pense que cela va amadouer la jeunesse. Et faire qu'elle s'endorme. C'est tout à fait le contraire qui se passe, bien entendu.
Alors, vos personnages, Gérard de Cortance, dans Zazou, donc, quoi, il y a 5-6 personnages principaux, on va dire, autant de filles que de garçons, à peu près. Donc, ils continuent à être Zazou, à avoir leur propre manière de couper le poulet, car encore faut-il en trouver, de s'habiller avec en soquettes blanches, chandail à col roulé rose, quand c'est la mode, de porter un manteau en poil de chat, quand on en trouve, des bottillons doublés de fourrure de je ne sais quel animal. Mais voilà, puisque c'est des personnages que c'est par ces personnages-là que vous avez raconté cette histoire, il faut qu'ils aient chacun une vie très différente, un regard sur l'époque différent. Et finalement, l'héroïne, qui a trois prénoms, mais enfin qui en a un en tout cas le plus important, lequel ?
C'est Josette.
Josette, mais elle s'est appelée Catherine aussi.
C'est ça, voilà, oui.
Et elle aura un autre prénom par la suite.
Elle aura un autre prénom lorsqu'elle... Mais on ne va pas raconter la fin.
Non, racontez pas la suite. Voilà. Là est la fin. Finalement, cette héroïne, qu'on, par définition, c'est celle à laquelle on est le plus attaché, c'est celle que l'on suit le plus, mais elle n'est pas très correcte dans tout ce qu'elle fait.
Non, c'est-à-dire qu'elle elle est plus ou moins amoureuse d'un soldat allemand, mais ce soldat allemand... est un zazou allemand, parce que je tenais à raconter cela, parce que là encore, on en parle très très peu. Il y a eu un mouvement zazou en Allemagne, très important, et qui est antérieur au mouvement zazou français. Dès 1933, à Hambourg, à Cologne, à Berlin, il y avait des zazous. Il y a eu un très beau film américain qui s'appelle Swing Kids, qui raconte cette histoire. Et donc, cela m'intéressait de mettre en relation une zazou française avec un zazou allemand qui a pratiquement le même âge et qui est, au fond, qui ne sait pas très très bien ce qu'il est en train de faire en France. Il est dans l'armée allemande. Il aura une destinée qu'on ne va pas raconter là par la suite. Il ne se passera rien en réalité entre eux. Elle sera accusée de choses qu'elle n'aura pas commises.
Alors qu'elle a une amie qui, elle, chante devant les Allemands en permanence, elle est prête à faire le voyage en Allemagne.
Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'était de raconter que chaque personnage, au fond, a une vie à lui. Et une façon de raconter sa guerre.
Oui, c'est un groupe, mais
c'est
des individualités.
Voilà. J'avais un petit peu en souvenir ce film... italien, le bal, où tous ces gens se rassemblent, vous savez, dans une salle de bal. Là, c'est un café.
Et Torriscola.
Voilà. Eh bien, dans ce café, les gens vont et viennent, rentrent et sortent, et les choses se racontent. Et je voulais raconter la guerre de cette façon-là. C'est-à-dire, chacun a une vision particulière, avec une façon de le raconter qui me tient beaucoup à cœur, à savoir, pour écrire ce livre, consulter des livres d'analyse sur la guerre. J'ai consulté des journaux d'époque, des mémoires, des journaux intimes. Je voulais avoir le nez sur l'événement. Parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on raconte la guerre avec le nez sur l'événement, la guerre est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas le futur ces gens ne savaient absolument pas ce que demain était. Un avion tombait dans un arrondissement de Paris. On ne savait pas quel type d'avion était tombé, pourquoi il était tombé, le nombre de morts, sur quoi il était tombé, on ne savait pas. Et donc la rumeur s'installait, et ça, tous les événements de la guerre ne sont racontés que par des rumeurs qui parfois s'avèrent juste à la fin et parfois sont fausses.
Ils parlent beaucoup, les personnages, dans les cafés, dans les salles de spectacle. Alors nous, on en apprend beaucoup comme lecteurs.
Oui.
Mais moi, j'avais l'impression, comme ça, que les gens se taisaient. Enfin, que c'était les murs ont des oreilles et que...
Non, alors, d'abord, ces gens sont jeunes. Et y a les gens jeunes ne se taisent pas. Et ils fréquentaient...
Vous azou, oui. Mais je pense que un résistant
c'est-à-dire, bien entendu, c'est-à-dire que c'est une vision de la guerre qui n'est pas celle qui aurait été racontée par un résistant.
Bien sûr.
Même si certains de ces azous sont tentés,
sans savoir finalement que l'un et l'autre, enfin bref.
Voilà, exactement. Mais c'est une vision particulière. Mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que les salles de cinéma étaient combles, les salles de concert étaient
combles. Il faisait plus chaud déjà.
Et les gens se réunissaient aussi parce qu'il faisait chaud. Les théâtres étaient combles. Les salles étaient pleines. Et ça, c'est très important d'avoir ce regard sur cette époque.
Alors, il y a une jeune juive qui s'appelle Sarah, que ses amis protègent, ce qui est quand même la moindre des choses.
Oui.
Mais tout n'est pas joyeux dans la vie. Enfin voilà, vous n'avez pas écrit, vous ne voulez pas que tout se termine merveilleusement bien. Enfin,
parce que, comment dire, ça aurait été vraiment très 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 compliqué de ne raconter que des choses joyeuses. Ça aurait été à ce moment-là tronquer l'histoire. Je ne voulais pas tronquer l'histoire.
Ça demande pourquoi vous l'auriez fait.
Voilà. Mais je voulais imaginer une histoire qui soit légère, mais dans cette légèreté, qui n'évacue pas l'horreur qui est présente et qui donne d'autant plus de valeur, je trouve, à la forme de résistance de ces adolescents. Qui n'acceptent pas ce qui est en train de se passer. Et leur non-acceptation, à mon sens, est une forme de résistance parallèle à la résistance armée, qui évidemment, il ne s'agit pas de nier ce rôle-là qui est fondamental, bien entendu. Oui.
D'ailleurs, ces jeunes gens, j'imagine, devaient voir les Azou passer comme des... pas des traîtres, mais enfin, ils devaient penser que vraiment, cette visibilité...
Absolument, c'est-à-dire que les Azou, au fond, avaient contre eux...
Tout le monde.
Tout le monde.
Sauf vous. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de familial? Parce que vous avez dit les journaux intimes, les journaux, etc.
Mais là, il me faudrait une autre émission pour raconter. Mais il y a effectivement quelque chose de familial, c'est-à-dire que... En deux mots, ma mère avait 14 ans à la fin de la guerre, enfin au début de la guerre. Donc c'était une toute jeune fille qui a, à sa façon, fait de la résistance, comme beaucoup de gens de ma famille et qui m'ont dit d'ailleurs après, mais tu sais, c'était normal, tout le monde faisait ça. J'ai assez aimé cette façon de faire de la résistance sans demander des médailles à la fin de la guerre. Mais ils ont effectivement résisté. Et j'avais un grand-père italien, napolitain, maçon, qui avait un petit orchestre. Il s'appelait Pietro Pezza et qui jouait de l'accordéon dans les bals du samedi soir. Et donc, qui a passé toute la guerre à jouer de la musique zazou, non pas dans les bals qui étaient et les dancing qui étaient fermés, mais dans des caves, mais parce qu'ils avaient inventé aussi le terme de surprise party, qui a été repris après dans les années 60, hein, sur patte, sur boom, etc. Ça venait en fait de ça. Les surprises parties, c'est-à-dire que tout à coup on décrétait, puisqu'on ne pouvait plus ni danser, ni chanter, ni s'amuser dans les dancing et dans les balles, eh bien on faisait ça chez soi. Et ce grand-père a passé toute la guerre avec son accordéon.
Ce n'est pas l'accordéoniste aveugle qu'on suit de temps en temps comme ça
dans le roman. Non, il n'était pas aveugle, il m'a raconté, comme ma mère, un certain nombre d'anecdotes qui donne ce côté vécu au roman, ça, bien sûr, oui.
Et non, ce qui est très bien, justement, c'est que tous ces personnages sont différents les uns des autres, ce qui est minimum quand même pour un romancier, mais qu'ils ne savent pas tous les uns des autres. Enfin, ils sont amis, vraiment amis.
Oui.
Nous, on en sait plus qu'eux. On préfère tel détail psychologique chez l'un, chez l'une, et puis voilà, on fait une bande d'amis, quoi. Mais...
Oui, c'est-à-dire que l'important, c'était que ces gens, comment dire, vivent, qu'on ait envie, enfin, de savoir comment ils vont vivre ça, qu'est-ce qui va se passer le chapitre suivant, comment ils ont vécu cette guerre, pourquoi. Ils sont pas tous antipathiques ou sympathiques, c'est un mélange de tout cela.
Ils se réunissent tous dans un café, chez Eva.
Eva, le café
Eva. Il y a une étudiante, une coiffeuse, un infirmier qui est trompettiste, une jeune femme qui travaille dans une grande maison de couture.
Oui.
C'est qui?
Absolument.
Lucienne, elle s'appelle.
Oui, Lucienne. Non, je vais pas donner.
Je vais pas donner de nom. Bon, enfin, peu importe. Il y a Sarah. Il y a
qui est boulangère.
Et puis il y a les voisins qui sont sympathiques. À un moment, d'autres concierges qui est un peu moins, mais qui finalement les accusations qu'elle porte ne sont pas vraiment fausses. Enfin,
oui, enfin, c'est vraiment une image de la France à Paris dans ces années-là.
Enfin, je pense que les lecteurs qui n'ont pas vécu la guerre vont découvrir ou ont déjà découvert cette période, voilà, par un autre éclairage, et que les jeunes gens, enfin, en tout cas, les jeunes gens de 15 ans, 15-20 ans en 40 vont se replonger. S'ils étaient parisiens, il n'y avait pas de Zazou en province, si?
Un petit peu, si, mais vous savez qu'il y avait même des Azou à Montréal.
Oui, mais enfin, Montréal n'était pas.
Oui, mais enfin, donc c'est vraiment, c'était pas un mouvement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de mot d'ordre, il n'y avait pas de chef, mais c'était vraiment quelque chose qui a diffusé dans une partie de l'Europe et du monde, puisque Montréal a été Zazou pendant la guerre 39-45.
C'était lutter contre quoi? Contre la peur,
la contre la peur, voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
La terreur.
Je pense que c'est exactement ça, contre la terreur et contre la peur. C'est-à-dire de montrer qu'on existait, qu'on continuait à vouloir s'amuser, qu'on continuait à vouloir chanter, qu'on continuait à vouloir danser. Et oui, c'est une, à mes yeux, c'est une forme de résistance, une façon de dire non, en fait, avec les moyens qui sont ceux des adolescents, qui ce n'est pas une force armée, l'adolescence.
Alors, vous citez, par exemple, un des chapitres, on est en 42, vous parlez de la mode 42, alors là, la mode des couturiers. Le tailleur va être moins étroit que l'année passée, et puis chez Lanvin, on crée une mode, ou on fait un défilé, je pense pas, mais ça s'appelle « Je ravitaille » ou « Je remplace le chauffage central ».
Ah, tout ça est exact.
Ouais, j'espère bien.
oui, bien sûr, oui. Bah, écoutez, on utilise, mais je pense que là, les gens qui sont au cœur de la mode, le formuleraient beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'ils sont... La mode est dans le présent. C'est-à-dire, elle utilise ce qu'elle voit, ce qu'elle entend.
Ouais. Ah, c'est étonnant d'ailleurs, parce que vos azous, Gérard de Cortan, s'ils veulent des chemises ou des vestes à carreaux, ils les trouvent, des parapluies Chamberlain, ils les trouvent, il n'y a plus rien. Alors là, on est en 40, 41,
on trouve tout. On trouve tout. En réalité, je me suis aperçu c'est vraiment des monceaux d'archives. C'est on se débrouillait. Et d'ailleurs, ma mère qui vivait à Montfermeil, c'est tout près de Paris, elle m'a dit, tu sais, en fait, on trouvait absolument de tout. Mais il suffisait de chercher, de se débrouiller.
Oui, enfin, c'était déjà une occupation permanente,
à
chercher à manger. Voilà.
Bien sûr, à plein temps, oui.
Bon, c'était un plein temps. Un plein temps pas très joyeux. Zazou, publié chez Albin Michel, donc votre roman, Gérard de Cortance, et puis le double CD. On va écouter d'ailleurs, pour se quitter là, non plus Johnny S, mais Irène de Trébert, qui est importante dans le roman aussi.
C'est Mademoiselle Swing, oui, bien sûr.
Voilà. Hein. Alors, j'aime beaucoup aussi Swing Rêve, là, et j'aime beaucoup les pics aussi que vous sortez, parce que comme ça se passe dans ces époques, là, soudain, on peut croiser un personnage, Sartre, Beauvoir, tout ça, etc.
Oui.
Vos personnages n'en disent pas le plus grand bien. En tout cas, ce qu'on apprend, ce qu'on sait, d'ailleurs.
Ce qu'on sait, c'est par exemple que Simone de Beauvoir a préféré corriger ses copies plutôt que de participer à la première manifestation le 11 novembre 40. C'est un fait établi, oui. Et je crois que c'est le rôle du romancier, vous savez, de rappeler ces petites choses.
Oui.
Parfois qu'on oublie, et puis qui donne de la couleur.
Oui, non, mais c'est pas. Ça arrive bien, c'est-à-dire que c'est pas soudain une note de bas de page, le romancier qui se veut documentaliste. Non, c'est pas ça, c'est un très bon roman. Merci Gérard de Cortance. Donc Irène de Trébert, grande chanteuse de l'époque.
Absolument, Mademoiselle Swing, elle était surnommée Mademoiselle Swing.
Je rêve dans le soir sans autre lumière que le feu qui éclaire les murs de ma maison. Demi-obscurité qui crée des mirages, étrange paysage d'où est née ma chanson. Swing, c'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans le gîte, reflet bizarre du feu qui fuit, au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing, j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie, c'est la chanson du rythme de la vie. Par la fenêtre ouverte, les notes s'élancent et sous le ciel immense s'envole mon refrain. Il s'en ira là-bas, doux et nostalgique, pour promener sa musique au hasard des chemins. j'ai pris tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie. C'est la chanson du rythme de la vie.